le pardon est scellé. Moi, je ne sais pas, je comprends plutôt comme ça. Le don précède la faute, et alors après la faute, il y a le pardon.
Oui, d'accord. Quand je dis le pardon précède la faute, hein, ce n'est pas chronologiquement que je... Parce que chronologiquement, je trouve le pardon après le don, ça c'est clair. Hein, chronologiquement. Mais il est d'ores et déjà prêt, le pardon. D'ores et déjà. Parce que si Dieu ne s'engage... Quand Dieu crée, il faut qu'il engage sa créature avec sa limite et qu'il prenne les responsabilités. Quand normalement, quand on fait un enfant, eh bien, on doit accepter cet enfant et ce qu'il va devenir. Normalement. Ça, c'est prendre sa responsabilité. Mais c'est pas évident. Pour beaucoup, c'est pas évident. On veut bien l'accepter dans certaines conditions. Oui, mais il sera peut-être mal formé. Alors, on l'accepte pas. Il y a un manque de logique de la vie. Oui, si la vie vient de nous, évidemment, là, on en fabrique ce qu'on veut, hein, ce qu'on peut. Mais si la vie vient de plus loin, s'il est une réalité universelle, absolue, ça devient difficile. Mais quand on perd le sens de Dieu et de la présence de Dieu, la vie est ce que nous en faisons. Et Dieu aussi, d'ailleurs. Et c'est ça le mystère, c'est que nous pouvons faire de Dieu ce que nous voulons. C'est terrible, hein? Nous pouvons le malmener, nous pouvons le mettre de côté, nous pouvons ne pas l'accepter.
Comme dans la parabole des talents, Dieu se présente à nous avec l'image qu'on se fait de lui.
Et à la fois, c'est le... Ou bien c'est terrible, ou bien c'est le signe de l'amour. Dieu ne nous dit jamais qu'il aime, hein? Il n'a jamais dit qu'il aimait Abraham, il n'a jamais dit qu'il aimait Adam et Ève. Vous aurez remarqué ça, il ne dit jamais. Qu'est-ce que l'amour doit se découvrir? Et il dit l'alliance quand elle est faite. Il dit Abraham, fais tout ce qu'il faut pour une alliance, et alors quand elle est faite, il dit, bien voilà l'alliance que je fais avec toi. Et l'alliance se situe à l'intérieur de ce que fait l'homme. C'est un respect terrible de l'humanité. Mais ça nous fait mal de ne pas être à la hauteur de Dieu, finalement. Et donc Dieu ne peut accepter cela que s'il accepte ce décalage en nous, cette souffrance, cette blessure en nous-mêmes. Enfin, il faudra encore réfléchir là-dessus, parce que c'est tout le chemin de la Bible. Et nous continuons. Oui.
Vous avez donné la référence exacte de l'écrit de Jean-Paul II sur le commentaire des premiers chapitres de la Genèse.
De quoi? De
Le commentaire de Jean-Paul II sur les premiers chapitres de la Genèse. Donc,
mais, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi, c'est un petit volume. Avec...
Qu'est-ce qui se passe quand on tape à l'Apocalypse?
C'est la même chose. Il faut l'avoir tout à fait en mémoire.
Pour l'année prochaine.
Il faut l'avoir en mémoire. C'est pas facile d'avoir des choses en mémoire. Quand je vois mes étudiants qui sont avec des portables, là, hein, des petits computers portables, ils prennent des notes. Hein. Vous prenez des notes avec une plume et du papier, et eux, ils prennent des notes sur ordinateur. Hein. En même temps que simplement prendre des notes sur ordinateur, c'est plus compliqué que de prendre des notes avec un petit portable. Ça fait pas de bruit, c'est pas de problème. Mais alors, sur leur portable, ils ont, ce que je n'ai pas dans mon ordinateur, toute la Bible en hébreu, en grec, en français, en anglais. Si bien que, une référence, je dis, tiens, où est-ce qu'on parle de l'arbre dans la Bible? L'arbre. Ils ont tous les textes. Moi, j'utilise encore des concordances, figurez-vous, mais il faut compulser des bouquins. Eux, ça y est, tout de suite.
Il y a les gamins, ils vont avec leur portable.
Mais ils peuvent, il n'y a aucun problème. Mais l'important n'est pas d'avoir dans les choses dans sa tête. L'important, c'est de savoir comment vous tirez une chose d'un texte. Ils reçoivent les questions la veille pour un examen ou l'avant-veille pour un autre examen. Donc, ils peuvent aller consulter toute la bibliothèque, tout ce qu'ils veulent. L'important n'est pas de me dire ce qu'il y a dans les bouquins. L'important est de me dire ce que vous racontez, qui est peut-être très beau, que vous avez trouvé dans un bouquin, où le trouvez-vous dans le texte et comment le sortez-vous. Parce que ça, c'est important. S'ils sont capables de faire vivre, de faire vibrer un texte, bon, alors c'est bien. Tu m'amènes de tas d'affaires, ils sont très bien. Très bien, mais je peux les lire aussi. Et la plupart du temps, je sais d'où ça vient. Donc ça ne fait pas problème. Mais c'est tout différent. La théologie ou l'écriture sainte, c'est tout différent. Laisser parler la parole. Mais il faut la laisser parler de façon personnelle. Et donc, est-ce que je m'engage dans la parole que je laisse parler? Et donc, ils peuvent me dire une chose, et le suivant peut me dire sur le même texte une chose très différente, mais tous les deux la puisent dans le texte, et ils me montrent que c'est vraiment dans le texte, très bien. Très bien. C'est tout autre chose que de... C'est pas un savoir. C'est
goûter.
Goûter un texte... Et montrer avec son langage personnel comment je le goûte et comment je le laisse passer. Au fond, c'est ce que tout catéchiste doit faire. Le catéchiste doit faire passer le texte dans un contact personnel, le laisser parler pour les enfants, le groupe auquel il parle. Ça, c'est la catéchèse. C'est pas seulement transmettre un savoir. Justement, transmettre un savoir, ce n'est pas de la catéchèse. C'est intéressant, c'est de l'information. Mais ça, maintenant, vous avez dans le moindre CD-ROM. Hein. C'est pas compliqué. Maintenant, comment faites-vous travailler ce que vous donne l'information? Et maintenant qu'on peut arriver à l'information de façon très rapide, le véritable travail va être comment utiliser, d'abord intérioriser, s'approprier la réalité et comment la redire dans ses propres mots. Ça, c'est la responsabilité de tout catéchiste et même de tout parent ou grand-parent, peut-être encore plus les grands-parents. Parce qu'il faut parfois passer au-dessus, là, nous arrivons à Noé, il faut passer au-dessus d'une génération qui n'a plus laissé parler Dieu. Et donc, il faut le redécouvrir à travers des chemins très difficiles. Et ces chemins très difficiles, en fait, ils ne sont souvent donnés par des livres que nous connaissons très peu, qui sont les livres de la sagesse, où on parle peu de Dieu dans la sagesse. Mais où il passe à travers la réalité concrète. Mais la sagesse vient après la Torah, elle vient après les prophètes. Et la sagesse utilise les mots et les réalités de tout homme. C'est pourquoi la sagesse est un langage plus universel, il est déjà devenu plus universel, que le langage de la Torah, bien sûr, que nous prenons ici, qui est très particulier, ou même le langage des prophètes, qui est non seulement très particulier, mais qui est daté. Il est daté, il est toujours particularisé et localisé dans la géographie et dans l'espace et dans le temps, dans l'histoire. Mais vous voyez, il y a du pain sur la planche. Nous ne sommes qu'à la page 24 et on a, dans les 2000 je crois, hein, 1600, oui. Et le parcours est important, le parcours de A à Z, et puis de Z à A, c'est le parcours que vous faites tous. Hein. C'est, nous faisons la lectio divina. Non. Le Seigneur, lui, apparut au chêne de Mambré. On a déjà trouvé ce chêne de Mambré. Ce chêne de Mambré indique un haut lieu, un endroit où on peut rencontrer Dieu. Le chêne, l'arbre, surtout dans dans un pays désert, manifeste justement la vie au milieu de ce qui est désertique, donc symbolise la présence de la vie, c'est-à-dire de Dieu. Le Seigneur lui apparut au chêne de Mamré. Tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Voilà une scène de Jean, il est assis à l'entrée de la tente, donc il a encore un peu d'ombre de la tente au plus chaud du jour. Il y a un beau dessin là en dessous, hein, au réfectoire, hein, il nous montre ça. Il n'est pas tout à fait assis en or, mais il est assis en dessous du chêne, je ne sais pas si vous avez remarqué. Tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour, ayant levé les yeux, voilà qu'il voit trois hommes. Attention au récit, hein. Il est très bien écrit. Voilà qu'il vit trois hommes. Il vit trois hommes. Il lève les yeux, il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre. Et il se prosterna à terre. Vous aurez remarqué qu'il s'était prosterné devant le Seigneur déjà, hein? Donc, on ne se prosterne pas devant n'importe qui. Il dit, « Mon Seigneur, okay. » Les trois hommes, il dit, « Mon Seigneur. » Il s'adresse au singulier, à trois hommes. « Je t'en prie, dis, je te prie. » C'est ce qu'il disait aussi à Sarai. Je te prie. Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Agar n'avait pas trouvé grâce aux yeux de Sarai quand elle était enceinte. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Ton serviteur sans t'arrêter. On dirait qu'il soupçonne quelque chose. Qu'on apporte, que soit apporté, un peu d'eau, vous vous lavez les pieds, en plein désert, vous vous rendez compte, l'eau est précieuse, on ne se lave pas tous les jours, vous vous lavez les pieds, et vous vous étendrez sous l'arbre. Vous allez pouvoir faire votre sieste, après vous êtes un peu rafraîchi, vous allez prendre votre douche, et je vais vous préparer une chambre. C'est ça ce qu'on dirait aujourd'hui. Que j'aille chercher un morceau de pain, et vous vous réconforterez le cœur, pas l'estomac, mais le cœur. Avant d'aller plus loin. Il fit semblant d'aller plus loin. Hein? Emmaüs. Oui, il y a tout le temps des réminiscences dans le Nouveau Testament. Et quand on connaît bien le texte, toutes ces réminiscences jouent, alors le texte devient très parlant. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous réconforterez le cœur. Avant d'aller plus loin, il faut casser la croûte. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais donc comme tu as dit. Ici, ce qui est mis en évidence, vous vous rendez compte tout de suite, c'est l'hospitalité. Hein? L'hospitalité du nomade. Il n'a rien, il donne tout. Abraham se hâta. Vous savez qu'il est riche, hein, Abraham. De se payer ou quand même de donner un morceau de pain et de l'eau. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, prends vite trois boisseaux de farine, pétris et fais des galettes. Le royaume des cieux est semblable à un peu de levain qu'une femme a pris et a mêlé à trois mesures de farine. Aïe, d'où les choses viennent. Trois boisseaux de farine, pétris et fait des galettes. Les galettes, c'est ce que nous appelons la pita, hein, c'est le pain, le petit pain plat, qui est cuit sur une plaque, ou bien sur la pierre, au soleil. Puis Abraham courut au troupeau. Il se hâta vers la tente, prend vite trois boisseaux de farine, puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Tiens, ça va vite tout d'un coup. C'est intéressant. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, et il mangeait. Et c'est lui maintenant qui est debout. C'était les trois qui étaient debout, maintenant c'est lui qui prend la position. Il est là, il attend, sous l'arbre, et il mange. Oui, là d'abord, il vit, il va chercher à manger, première chose, prendre une douche et manger. Ils lui demandèrent, hein, ils, au pluriel. C'est drôle, hein, quand le récit se déroule, c'est ils, au pluriel. Quand c'est Monsieur Abraham qui parle, c'est Monseigneur au singulier. Ils demandèrent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'autre reprit, je reviendrai chez toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. Il avait déjà dit, hein, que l'an prochain il aurait un fils. Enfin, ici, c'est un autre, on dira, bah oui, c'est un autre récit. Le premier était sacerdotal et le deuxième est yaviste, hein, et il les met bout à bout. Oui, mais pourquoi répète-t-il? Pourquoi les met-il bout à bout? Il aurait pu couper. C'est ce qu'on fait dans un film quand il n'est pas bien fait. Couper. Là, on commence. Ici, on ne coupe pas. Donc, c'est que la répétition est importante. Il lui a déjà dit d'une certaine manière, à propos de la circoncision, là, mais ça, c'était un objet qui montrait la circoncision, hein, fait partie de la transmission de la vie. Comme un courant. Ici, c'est une relation personnelle qui s'exprime. Je reviendrai chez toi l'an prochain, alors ta femme, Sarah, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui.
Sans commentaire.
La tente des femmes qui est derrière la tente des hommes. La tente des femmes. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, mais on le sait. Plus de 100 ans maintenant, hein. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant, maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir. Et mon mari qui est un vieillard. Nous rions de la proposition de Dieu. Maintenant que je suis usé, je connaîtrai le plaisir. Et mon mari, qui est un vieillard. Mais le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Se disant, vraiment, vais-je encore enfanter? Alors que je suis devenu vieil. Il entend un Dieu, hein? On l'avait appelé le premier Ismaël, ça signifiait quand même qu'il entendait. Elle entend aussi, elle écoute derrière la tente, à la porte. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? Ça revient aussi dans l'Annonciation, hein, à Marie.
Rien
n'est impossible à Dieu. Et voyez, tout ça, ce sont des petits clins d'œil que les évangélistes, hein, font à celui qui connaît bien l'histoire, qui connaît bien le récit. Y a-t-il rien de trop merveilleux? Nous avons maintenant ça, heureusement, hein, dans les notes ou bien dans les marges. Mais notre mémoire n'est pas toujours fidèle. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Sarah démentit.
Je n'ai pas dit.
Dit-elle. T'as fait lui peur. Beaucoup de choses là-dedans. Je n'ai pas ri. Elle rit, elle dit, je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Mais il répondit, si tu as. Abraham a ri, Sarah a ri, et Dieu rit en leur donnant Yitzhak, celui qui rit.
C'est la vache qui rit.
Le sourire, pardon?
La vache qui rit.
La vache qui rit. C'est Léa là-bas. Un peu plus loin, c'est un peu plus tard. Et c'est beau hein, ce récit. Qui montre à la fois la connivence, à la fois le désir de l'un et de l'autre, et l'impossibilité d'accepter. C'est tellement extraordinaire que ce soit Dieu qui soit le père d'un enfant, qui donne d'enfanter. C'est tellement extraordinaire, on rigole de ça. Hein. Mais c'est pas fini l'histoire. C'est enlevé, les hommes partirent de là. Et ils arrivèrent en vue de Sodome. Voilà, toujours Sodome, là où Lot est présent. Il est comme emprisonné dans le système sodomite. On voit que c'est pas fameux. Hein. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Alors ici, le Seigneur s'était dit. Le Seigneur qui se parle à lui-même. Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Alors qu'Abraham deviendra un grand peuple et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Il faut quand même que j'en fasse mon associé puisque hein, j'ai fait une alliance avec lui. Jusqu'où peut aller l'association? Jusqu'où pourra-t-il comprendre? Comprendre quoi? Le texte va nous le dire. Puisque je lui ai dit, alors que Abraham deviendra un grand peuple et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Maintenant, on a vu le chemin. Hein. Le chemin, c'est Sarah qui arrive et qui va voir le rire de Dieu dans son ventre d'abord. Car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en accomplissant la justice et le droit. Oh, ça revient tout le temps, hein, la justice et le droit. Accomplir la justice et le droit. C'est-à-dire vivre en parfaite conformité avec ce que l'on est, avec le réel. C'est ça la justice et le droit.
Et Jésus dit une fois accomplir toute justice à Jean-Baptiste.
À Jean-Baptiste. Quand Jésus vient pour se faire baptiser et que Jean-Baptiste refuse, mais non, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Et Jésus dit, ainsi nous convient-il d'accomplir toute justice. C'est-à-dire de vivre la réalité que je suis, la réalité de fils, en étant solidaire de tous ceux qui se bousculent au confessionnal de Jean-Baptiste. Car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, en accomplissant la justice et le droit. De la sorte, le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il lui a promis. C'est drôle, hein, que Dieu parle de lui-même en troisième personne. Il ne dit pas « je », sous-signé « Yahvé », mais il dit « de la sorte, le Seigneur pourra réaliser ». On dirait qu'il prend de la distance par rapport à lui-même.
Au fond, c'est dit pour le lecteur. Hein,
oui, bien sûr, phrase-là. C'est évident. Ça renseigne le lecteur. Et en même temps, ça renseigne le lecteur tout en ne renseignant pas immédiatement Abraham. Et le jeu du texte. Il faut être sensible. Donc maintenant, on sait que le Seigneur a un projet pour son temps. Mais Abraham n'est pas encore censé le savoir. Mais est-ce qu'il va lui dire? Alors, c'est le lecteur qui se demande, est-ce que le Seigneur va dire la suite? Jusqu'où va l'alliance? Donc le Seigneur dit, il s'est d'abord dit à lui-même, et puis il dit, le cri contre Sodome et Gomorre est bien grand. Le cri de qui contre qui? Le cri contre Sodome et Gomorre est bien grand. Tout le monde se crie. Leur péché est bien grave. Donc c'est que Dieu est atteint par le péché des hommes. Il faudra savoir ce qu'est ce péché qui atteint Dieu. Leur péché est bien grave, puisque le cri parvient jusqu'à moi. Le cri contre Sodome est bien grand. Le cri que leur arrache leur tortionnaire est arrivé jusqu'à moi.
Dans l'Exode.
Exode. Ça, c'est l'histoire du cri qui commence.
Son cri de vengeance, c'est
Caïn. Déjà Caïn, appelle. Mon sang, cri de vengeance. Encore un thème que vous pouvez, étudier à travers toute la Bible.
Le cri de Jésus.
Évidemment. Évidemment. Le cri de Job, le cri du peuple, le cri de Jésus en croix, le cri qui vient dans les psaumes, toujours le même cri. Et Jésus va les reprendre tous ces cris. Parce qu'il crie dans tous les cris du monde. C'est les cris d'avant, les cris de pendant, les cris d'après.
Le cri de naissance, quand même.
Que ça en crie.
Un enfant qui vient au monde, c'est différent. C'est
cri.
Le cri de vengeance, le cri de naissance, c'est un peu différent.
Oui, c'est toujours un cri. Le cri manifeste toujours une souffrance. Le cri manifeste une démesure. C'est pas la parole, le cri. Et c'est cette démesure qui a bien sûr
des harmoniques.
Oui, des nuances, des réalités qui revêtent des réalités différentes suivant. Pour un enfant, c'est le premier cri, l'ouverture. Le cri de Jésus qui meurt et le cri de...
Notre naissance.
Pardon?
L'eau, le sang et le souffle, Jésus meurt sous les signes d'une naissance, d'un autre.
Oui.
C'est un cri
dans Saint-Jean. Dans Saint-Jean. Pas partout. Le cri dans Saint-Jean n'est pas le même que le cri dans Matthieu et Marc. Il poussa un grand cri.
Tantôt le mot justice, vous le disiez, en Saint Matthieu, c'est aussi facilement un ordre des valeurs. Chercher avant tout le royaume de Dieu et son ordre des valeurs.
Oui, oui. Et ça, justice. La justice, c'est toujours une conformité entre la réalité et la manière dont on la vit. C'est toujours ça, la justice. C'est l'ajustement de son comportement à ce qu'on est. Un père est juste quand il agit vraiment comme père. Donc, la justice, c'est pas simplement rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est pour ça que le terme d'ajustement n'est pas mauvais.
Diapason,
oui. Je me mets à la hauteur au diapason de. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de mesure. C'est ça la justice. Mais c'est la mesure entre l'être et l'agir. Quand Dieu est juste, il est juste parce qu'il agit comme Dieu. Le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand. Donc il y a aussi quelque chose qui crie vengeance ici. Leur péché est bien grave. Je veux descendre. Tiens, il était déjà descendu. Hein. Allons, descendons. À Babel, justement. Je veux descendre. Et voir s'ils ont fait ou non tout ce qu'indique le cri qui, contre eux, est monté vers moi. Je le saurai. Il veut en avoir le cœur net là. Hein. Il a entendu quelque chose, mais il faut qu'il aille vérifier. C'est magnifique, hein, la manière dont on parle de Dieu, là. Leur cri est bien grave. Je veux descendre et voir. Allons, descendons. Et voir s'ils ont fait ou non tout ce qu'indique le cri qui, contre eux, est monté vers moi. C'est leur agissement qui crie, qui monte. Je le saurai. Les hommes, on ne sait pas très bien à qui il a dit. Hein. Le Seigneur dit. Donc, il dit. Il s'est posé la question de savoir s'il allait révéler son projet à Abraham. Et puis, il dit, il faut attention, Sodome, c'est pas n'importe quoi. Hein. Je voudrais bien savoir. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Allons, je veux descendre. Et voilà que les hommes descendent. Et de nouveau, c'est Dieu qui parle, et puis ce sont les hommes qui obtempèrent, qui réalisent. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant. Il y a une note là qui est un peu bizarre. Les deux hommes distingués du Seigneur qui restent avec Abraham. On dira plus loin, 19.1, ils sont des hommes. Oui, oui, tout ça c'est une manière de s'exprimer. Mais est-ce que ce sont les deux hommes ou est-ce que ce sont les trois? Ça n'est pas dit. les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Curieux, hein, cette manière de s'exprimer. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Tiens, on dirait qu'il est au courant maintenant.
Il a deviné.
Il a déjà tout deviné. Le Seigneur se parle à lui-même, mais on dirait qu'il se parle à lui-même dans le cœur d'Abraham. Alors, pour étudier l'art du récit, c'est un récit merveilleux. C'est plein de suspense. C'est plein de points de suspension. Un peu comme quand vous racontez une histoire. Hein. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Il faut quand même faire une différence. Hein. Est-ce que tout le monde est également pécheur à Sodome? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer? Et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? La cité, c'est un corps. Hein. La cité, c'est une civilisation, un corps, une société. Et donc la société est solidaire. Donc ça suppose déjà pas mal de choses, tout cela. Un corps, c'est qu'on est solidaire. Alors, bon, il y a une contamination qui peut exister, mais il ne faut quand même pas tout mêler. Hein. Est-ce que tu vas mêler le bon avec le mauvais? Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là. Enfin, ça ne te ressemble pas. Hein. Il y a de la justice quelque part. De faire mourir le juste avec le pécheur. En sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Non, ça ne va pas. Ça ne ressemble pas à Dieu. Loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? Et voilà que il reçoit, voilà que Dieu reçoit une leçon d'Abraham. Bien, quand même. Le Seigneur répondit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Abraham reprit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, mon Seigneur.
Il se fait timide.
Oui. Il vient sur la pointe des pieds. Hein. Moi qui suis poussière et cendre. Mais peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5. Ah, il parle aux 50, hein. Peut-être que de 50 justes, des 50 justes, manquera-t-il 5. Feras-tu pour 5 périr toute la vie. Hein? Il répondit non, si j'y trouve 45 justes, il a bien compris, il a fait le calcul. Non, si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit encore la parole. Peut-être n'y en aura-t-il que 40. Elle répondit, je ne le ferai pas à cause des 40. Abraham dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. Et il répondit, je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Mais dit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. Il répondit, je ne détruirai pas à cause des 20. Il dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas. Et je parlerai une dernière fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 10.
Il faut être 10 pour une communauté de prière.
10, c'est la petite communauté à partir de laquelle 10 hommes peuvent prier. C'est le... Allez. On appelle le minyan. Minyan, ça s'appelle. Minyan. C'est le terme qui est utilisé pour dire l'entité à partir de laquelle on peut prier 10 doigts. c'est l'action humaine. Et pourquoi il n'a pas continué, Abraham? C'est évidemment la question que pose la tradition juive. Pourquoi il s'est arrêté? Je parlerai une dernière fois. Parce que s'il avait dit, et s'il n'y en a que cinq, Dieu continuerait aussi, je pardonnerai à cause des cinq.
Et s'il, en avait
et s'il n'y en a qu'un, je pardonnerai à cause du un. Et c'est l'homme qui s'arrête. L'homme qui ne croit pas que le pardon de Dieu puisse aller jusqu'au bout. Et le fait, il dit, je parlerai une dernière fois. Et Dieu ne peut plus continuer puisqu'il dit une dernière fois. Dieu doit bien s'aligner sur l'homme. Que voulez-vous qu'il fasse?
Oui. Il ne va pas s'aligner sur l'homme pour commettre l'injustice. Parce que c'est détruit. Il y a des justes qui vont être détruits. Et ça, c'est pas. Même si l'homme ne demande pas, c'est pas juste. Puisque la justice est d'accord avec le personnage.
Mais c'est encore plus juste pour Dieu de respecter l'homme. C'est ce que répond le juge.
Jusqu'à l'injustice.
C'est une injustice pour nous.
Pour le juste. Si on a, est-ce que Dieu est solidaire de l'homme jusqu'à commettre, et respectueux de l'homme jusqu'à commettre une injustice?
Dieu doit laisser l'homme agir. Ça, c'est la justice. Comme le dit la tradition juive, cette justice-là est beaucoup plus importante que l'autre. Parce que cette justice-ci est vraiment la justice de Dieu. De respecter l'homme, c'est ça? Ça correspond à la justice de Dieu de respecter l'homme jusqu'au bout. On ne peut pas forcer l'homme.
Mais c'était Dieu qui avait détruit Sodome, c'était pas Abraham.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Sur quoi le texte met-il l'accent?
Qu'on ne peut pas, il semblerait qu'on ne peut pas détruire les justes en essayant de...
Ben, il faut que Dieu s'en tire autrement pour sauver les justes. C'est déjà d'ailleurs ce qui va se passer. Mais ce qui est dans le texte est la capacité d'intercession. Jusqu'où va notre capacité d'intercéder pour l'autre? Alors, puisque, comment dirais-je, Abraham a cessé de parler, il a parlé une dernière fois, il en est resté à 10, il faudra bien que Dieu sauve ceux qui restent, et il y en a d'ailleurs des justes, il faudra qu'il les sauve autrement. Donc on met Dieu au pied du mur. Alors comment Dieu va faire? Ben il va respecter Abraham. Abraham dit, je parlerai une dernière fois. Ah ben voilà, tu as parlé la dernière fois. Moi je vais m'en tirer autrement, je vais trouver un autre système. Mais ce qui est dit dans le texte, au fond, hein, en présentant ce petit jeu, ce petit marchandage, c'est un beau petit marchandage spirituel évidemment, c'est jusqu'où va la capacité d'intercession de l'homme? Jusqu'où va la solidarité de l'homme? Est-ce qu'il y a un juste au fond? Qui est juste?
Le problème de Job aussi.
C'est le problème, justement. Est-ce qu'il y a un juste? On dirait que, hein, Abraham, il spécule sur le nombre. Mais est-ce que c'est vraiment du nombre qu'il s'agit? C'est du nombre. Qu'est-ce que c'est que le juste et qu'est-ce que c'est que le péché? Nous ne savons pas encore. Hein? Ça ne nous est pas dit. On ne sait pas encore quel est le péché de Sodome. On ne vous en a pas parlé de façon claire et précise. On nous a dit qu'ils étaient pécheurs, qu'ils étaient de scélérats, etc. Et quoi? On va le voir après. Ça, c'est le suspense du récit.
Donc et ici. Le seul juste, c'est Abraham.
Pardon?
Là. On pourrait dire qu'Abraham est le seul juste, il n'ose pas le dire.
Est-ce qu'il est seul juste? On pose les questions, mais on ne répond pas.
S'il s'arrête à 10, il n'est pas tellement juste.
Pardon,
il... S'il s'arrête à 10, il n'est pas tellement
juste. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment ajusté à la capacité de pardonner de Dieu. Et c'est ça que le texte dit. L'homme ne va pas jusqu'au bout.
Oui, c'est ça, je crois que c'est tout ça. Il
n'ose
pas aller plus loin.
Il n'ose pas. Mais il est limité, Abraham.
Peut-être qu'il n'a pas une confiance suffisante.
Il n'a pas une confiance suffisante. Mais alors, n'ayant pas une confiance suffisante, il trafique avec des noms.
Ou au contraire, il a tout à fait confiance et il se dit, puisque pour 10 ça va, ben pour 5 ça ira.
Mais il parle une dernière fois.
Non, mais on s'en est pas dans le texte.
Oui, mais quand le texte joue, hein. Et permet justement de poser des tas de questions. Le malheur, c'est que généralement, nous ne posons pas des tas de questions. Or, il faut les poser. Elles se posent.
Mais en lecture chrétienne, on descend jusqu'à un, jusqu'au seul juste qu'est Jésus. Ah,
évidemment. Évidemment. Et c'est le seul juste. Il n'y en a pas d'autre. Et il faut lire, vous voyez, les textes des pères de l'Église sur des passages comme ceux-ci. Les pères de l'Église vont beaucoup plus loin, ils sont d'ailleurs beaucoup plus proches du judaïsme. Et ils vont beaucoup plus loin. Ils voient bien que ici, quelle est notre capacité de pardonner? Quelle est notre capacité de décider, de découvrir le juste de l'injuste? Sommes-nous capables de le découvrir en nous? Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a 50% de nous qui sommes justes, 50% de pécheurs? Non, ça ne se calcule pas, ces choses-là. Sommes-nous capables d'intercession? Qu'est-ce que c'est qu'intercéder? Il est vraiment intercesseur ici. Intercéder, ça veut dire être solidaire à tel point qu'on prend en charge la cause de ceux pour lesquels on intercède. On devient eux, en quelque sorte. 50% de bons, 50% de mauvais. Mais ce n'est pas une copie de mathématiques, hein.
C'est ça que le physicien accélère à tout de suite.
Oui. Oui, Zanine.
Est-ce qu'il y a un lien direct entre ce texte et les justes parmi les justes, ce titre qui est donné à ceux qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre de 40, d'une part, et avec cette petite phrase quand ils ont la décoration d'Israël, celui qui sauve une vie sauve le monde.
Tout à fait.
C'est extraordinaire par rapport à la phrase que tu as dit sur la solidarité.
Ouais. Exactement. Ou bien, si vous voulez, le roman de Schwarzbach, Le Dernier des Justes. La même chose. Oui, tout homme représente toujours l'humanité entière. Pour le juif, ça, c'est ce qu'on appelle solidarité corporative. Hein. C'est chaque homme et le peuple. Sommes toujours solidaires du monde entier. Donc ce qui se vit dans le monde a répercussion sur nous, et ce que nous vivons a répercussion sur le monde. Tout homme qui s'élève, élève le monde.
C'est ce qui permet le jeu du sablier. Adam, puis Noé, puis Abraham, on reprend.
Oui.
Et au fond, en biologie, c'est pareil, chaque fois la vie repart d'une seule petite cellule. Et puis finalement, en Jésus.
Oui. C'est ce mouvement où l'un est toujours source du tout. Et le tout est toujours ramené à l'un. C'est la quête de l'un, finalement. On essaie de trouver l'unité. L'unité du monde. Et l'unité, on a vu qu'elle n'était pas dans l'uniformité. Où trouverait-on l'unité, au fond? Si c'était dans la réception du pardon. Hein? Exemple. Découvrir jusqu'à quel point le pardon unifie. Et vous verrez que dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, des deux, il a fait un seul par le sang de sa croix. Qu'est-ce qui fait l'unité du monde? La justice, le péché, ou celui qui sauve, le seul juste qui sauve le pécheur? Et le fait qu'il ne va pas plus loin nous pose des tas de questions et met en route notre réflexion. C'est pour ça que le texte est fait. Pas du tout pour nous raconter une petite anecdote. les deux messagers. Et c'est pour ça qu'on dit quand les deux anges ici, on dit ben, il est resté devant le Seigneur et les deux autres sont partis. Donc, c'est une compréhension du texte qui dit voilà, il y avait trois hommes, c'était Dieu et qu'il y avait deux témoins avec lui. Et ces deux témoins étaient l'ange. Les pères de l'Église, il en vit trois et n'en adora qu'un. Il dit, voyez, c'est déjà la Trinité qui est présente ici. Et ces textes sont pleins d'énigmes. Hein. Il ne faut pas vouloir les résoudre, il faut simplement les laisser jouer. Quand les deux anges arrivèrent à Sodome, sur le soir, attention, le texte ici est scandaleux. Ah, Lot était assis à la porte de la ville. Comme Abraham était assis à l'entrée de sa tente, la tente disant la famille, Lot est assis à l'entrée de la ville, la ville disant la société, un symbole de la fête. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna. Oui, exactement. Vous voyez bien qu'il est suiveur, hein, il est avec.
Vous êtes de famille.
Lot était assis. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre, se prosterna face contre terre. Il dit, je vous en prie, mes seigneurs. Ah, ils ne sont que deux ici, hein. Je vous en prie, mes seigneurs. Veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit et vous laver les pieds, puis au matin, vous reprendrez votre route.